Lorsqu'on est enfant et qu'un adulte vient faire effraction dans votre sexualité, ça laisse toujours des traces. Avec différentes modalités, en gros et de manière schématique, si vous avez des capacités de résilience, c'est-à-dire la faculté d'amortir des éléments traumatiques, et puis vous allez grandir avec malgré tout des reviviscences hein, et des petits symptômes qui vont venir réinterroger votre sexualité à l'âge adulte, hein, et ça va venir vous gêner un peu comme une espèce d'épine, hein, une écharde ou un caillou dans la chaussure qui va vous empêcher malgré tout d'avancer correctement, de manière harmonieuse dans votre propre sexualité. Première modalité. Deuxième modalité, vous allez commencer à imaginer que la sexualité, c'est ça. À l'âge de 7-8 ans, un adulte ou des plus grands, des adolescents, viennent comme ça jouer avec votre libido et votre accès au génital. Et puis du coup, vous allez fixer votre sexualité à ce niveau, sexualité infantile, le plus souvent alors sur le même registre, hein, homo-hétérosexuel, dans un phénomène de répétition. Et puis en grandissant, vous allez reproduire, puisque c'est la norme, c'est celle que vous avez vécue, c'est celle que vous avez intégrée. Et d'ailleurs, ça fonctionne bien puisque vous avez été excité. Ça, c'est purement mécanique et physiologique. Vous avez une érection, un orgasme. Ça s'est inscrit au niveau des circuits de récompense et au niveau limbique. Et puis, du coup, vous répétez. J'allais dire un peu naïvement. Soit il y a des événements, des épisodes qui vont venir vous rappeler la réalité en disant attention, c'est pas comme ça que ça joue la sexualité. C'est entre pairs, P-A-I-R-S. Et maintenant que tu es adulte, hein, il va falloir la jouer entre adultes. Ou soit, naïvement, vous allez continuer avec une fixation sexuelle infantile de rejouer le sexe avec des enfants. L'enfant est devenu adulte et l'adulte va intervenir auprès d'enfants dans ce phénomène de répétition. Et là, effectivement, le risque est majeur, hein, de venir aussi reproduire du côté des enfants une sexualité comme ça qui est fixée et clivée autour d'une sexualité infantile. Alors ça, c'est une catastrophe, parce que je dis bien naïvement, hein, il y a peu de conscience finalement du caractère délétère, avec beaucoup de fausses croyances, fausses représentations qu'on appelle des distorsions cognitives. C'est-à-dire que finalement l'enfant aime ça, et d'ailleurs j'ai aimé ça, donc c'est normal, on va lui apprendre, et puis ça fonctionne bien, ça ne crée pas de dommages, puisque la preuve, moi aussi, je l'ai vécu et je vais bien. Ça permet de justifier la poursuite et la répétition du comportement, ce qu'on appelle des rationalisations, qui seront très morbides et mortifères. Et puis troisième modalité, lorsque enfant vous avez été effracté, vous allez développer des fonctionnements, des aménagements totalement pervers, avec le besoin pour canaliser l'angoisse d'aller agresser des victimes qui sont plus vulnérables que vous. Et du coup, vous allez commencer cette carrière de prédateur sexuel que j'évoquais, qui est une catastrophe, hein, encore une fois, pour le sujet et pour toutes les victimes. Le ratio, c'est-à-dire la fréquence et la proportion de personnes comme ça, qui sont victimes, qui vont développer des conduites et des comportements qui posent problème, on l'a pas de manière tout à fait clair, parce que ça dépend vraiment du profil à la fois psychologique et de l'âge, de la maturité de l'enfant. Donc c'est éminemment individuel et il y a un ensemble de facteurs comme ça qui vont impacter. Par contre, il y a quelque chose qui est relativement intéressant et qui a été répliqué, c'est que pour un agresseur adulte, pédosexuel, avec des troubles pédophiliques, on est environ sur 1 sur 3, 20-30%, autour de 33%, qui a été victime au même âge que sa propre victime. Ça, c'est répliqué, par contre, vous voyez. Alors, c'est dommage. On n'est pas sur combien de victimes. Il faudrait une étude prospective. C'est-à-dire que on prend toutes les victimes et on regarde 15 ans, 20 ans plus tard s'ils deviennent auteurs. On n'a pas d'études très, très claires là-dessus. Par contre, quand on regarde des auteurs qui ont été condamnés et qu'on va explorer si eux-mêmes ont été victimes, 1 sur 3 environ a été victime. Par contre, l'enjeu, à chaque fois qu'il y a un enfant victime, c'est de le prendre en charge pour lui éviter à lui de venir rejouer cette sexualité traumatique qui s'est figée et lui permettre de s'approprier sa propre sexualité en tant qu'adulte. C'est ça l'enjeu du côté de l'enfant. Du côté de l'adulte, alors qui a été lui-même victime, l'enjeu c'est de lui permettre de reprendre le chemin de sa propre sexualité pour se la réapproprier. Et c'est tout l'enjeu des soins.
Ce qu'on a repéré quand même, c'est que il n'y avait pas que les violences à caractère sexuel subies dans l'enfance qui entraînaient la commission des actes et qu'il y avait bien d'autres formes de maltraitance psychologique ou physique qui n'ont pas la définition de caractère sexuel. Mais est-ce que le sexuel est si absent que ça de la maltraitance physique? Je m'interroge. Je m'interroge avec une ébauche de réponse quand même, qui est que dans les corps à corps de la maltraitance, c'est pas sexuel puisque les parties génitales ne sont pas touchées. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est excessif, qui n'a pas sa place et que l'enfant peut pas gérer et qu'il peut reproduire d'une manière clairement sexuelle quand il sera adulte.
Il y a très souvent cette incompréhension des juges, des avocats et des journalistes qui disent Mais monsieur, mais madame, vous nous dites que vous avez été vous-même victime, que ça vous a marqué à vie, et vous recommencez. Pourquoi? Et ça devient incompréhensible. Et je crois que justement, si on ne fait pas ce lien avec la représentation symbolique de cet enfant merveilleux et le besoin que ce grand blessé de la vie qui est devenu l'adulte qui a été maltraité dans l'enfance, on ne peut pas comprendre pourquoi ça se répète. Et en fait, l'acte pédophilique est une espèce de tentative de soigner, encore une fois, par le passage à l'acte, ce qui n'a pas été suffisamment élaboré et tenu dans l'enfance. Le jour où j'ai compris ça, avec des patients avec qui on élaborait cette question, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris enfin pourquoi ça se répète. Parce que si c'est simplement dans la recherche du plaisir, on ne comprend pas que la trace traumatique de l'enfance ne vienne pas marquer un arrêt, une butée. Mais si on se dit, les enfants qui ont été victimes sont encore des enfants blessés, devenus adultes, ils n'ont rien soigné, rien élaboré, donc on comprend que ça recommence. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que le travail d'information, de diffusion, d'explication est tellement essentiel. Ce que je trouve intéressant aussi de se dire, c'est que les informations qui sont données aujourd'hui sur la pédophilie, même si elles ne sont pas suffisantes, elles permettent à des gens qui ont été abusés de se dire, puisque j'ai été abusé, il faut que j'anticipe. Même s'ils n'ont pas forcément ressenti des fantasmes pédophiles, il faut que j'anticipe et il faut que je fasse quelque chose. Soit du côté juridique de dénoncer le ou la l'abuseur, soit du côté psychologique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, toute l'information qui circule permet, dans le secret de leur âme, à des gens qui ont été abusés, de se dire attention. Et ça, je trouve que c'est très important et très intéressant. Parce qu'en fait, les gens ont besoin, les gens qui ont été abusés et qui ne sont pas passés à l'acte, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls au monde. Et que c'est eux les victimes. Et malheureusement, comme le bourreau, entre guillemets, qu'est le pédophile, n'a pas honte, c'est eux qui ont honte. Comme s'ils se demandent s'ils n'avaient pas fait quelque chose. De la même manière que les femmes violées, quand elles allaient au commissariat de police, on leur disait, mais attendez, regardez vos fesses et votre jupe, etc., vous l'avez bien cherché. Donc, on se retrouve dans ces problématiques bourreau-victime qui chargent la victime d'une honte qui fait qu'elle se referme sur elle-même. Et donc, c'est important qu'il y ait des témoignages.
Je pense que toutes les victimes d'infractions à caractère sexuel sont en souffrance et que dans la mesure où on est pris en charge, dans la mesure où les faits sont reconnus, qu'on est reconnu comme victime, eh bien on peut s'en sortir et on peut cicatriser ses blessures. Ce qui par contre est une réalité, c'est que de nombreux auteurs d'infractions à caractère sexuel ont été eux-mêmes victimes d'infractions à caractère sexuel sans que l'on puisse bien sûr établir une relation de cause à effet. Mais il y a une spécificité pour ces auteurs qui ont été eux-mêmes victimes, c'est qu'ils n'ont jamais été pris en charge et que les faits n'ont jamais été révélés. Et donc, s'il y a un message à retenir, c'est que plus on permettra aux victimes d'être reconnues comme victimes et de parler, moins il y aura ce risque, si tant est que ce risque existe, qu'une victime devienne un auteur. En tout cas, pour limiter le nombre des auteurs, il faut d'abord soigner les victimes.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.